Bonjour chers auditeurs et bienvenue au panorama économique de ce week-end. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, les ministres africains des finances et les gouverneurs des banques centrales ainsi que des administrateurs du FMI et de la Banque mondiale ont séjourné à Kinshasa cette semaine. Ils ont pris part aux travaux du caucus africain qui se sont tenus dans la capitale congolaise. Nous y reviendrons. Et dans cette émission également, nous parlerons du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, et de son application, ou plutôt de sa non-application en RDC. Nous parlerons également des coupures d'un dollar qui ne sont plus acceptées ou plutôt sous-évaluées dans les transactions en RDC, alors que l'économie congolaise, nous le savons, est fortement dollarisée. Nous reviendrons sur la situation de la ville de Kisangani. Panorama économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique commentée et analysée par un invité. Et ce week-end, notre invité s'appelle Dieudonné Kassembo Nyembo. Il est président national de la commission PME et commerce à la Fédération des entreprises du Congo. Il est aussi chef d'entreprise. Bonjour, Monsieur Kassembo.
Bonjour, madame.
Et avec nous dans ce studio pour vous présenter ce panorama économique, Nicole Ngaka. Bonjour, Nicole.
Bonjour, madame Agathe.
Tout de suite, chers auditeurs, les dossiers de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Et ce premier dossier revient sur la tenue à Kinshasa cette semaine de la réunion du caucus africain 2011 qui a pris fin jeudi soir.
Dans leur mémoire adressée au Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les gouverneurs africains aux institutions de Bretton Woods ont résolu de renforcer les pôles énergétiques régionaux, aussi bien de l'Afrique australe, centrale, de l'Est, ainsi que de l'Afrique de l'Ouest. Ceci en vue de mettre en valeur le potentiel d'exportation de l'électricité du continent. Ils ont également formulé des recommandations dans le secteur de l'agriculture. Daniel Dabinsoni.
En vue d'améliorer la productivité agricole en Afrique et lutter contre la crise alimentaire, les gouverneurs africains demandent entre autres à la Banque mondiale d'affecter encore plus de ressources pour appuyer le développement des infrastructures d'irrigation et d'approvisionnement en eau. Dans le secteur de l'énergie, les gouverneurs africains demandent à la Banque mondiale de placer au centre de sa stratégie d'énergie les trois grands projets régionaux de l'Afrique. Le caucus de Kinshasa demande au FMI d'accroître les prêts à faible taux d'intérêt et de prolonger au-delà de 2012 la politique d'intérêt zéro sur ces prêts. Les fonds sont toujours disponibles, mais pourquoi les pays africains n'y accèdent pas assez? La ministre burundaise des Finances répond, Clotilde Nizigama.
Pour pouvoir accéder à la croissance, il nous faut des fonds importants pour pouvoir franchir ce cap de la pauvreté et investir dans les secteurs clés, les secteurs de base, pour promouvoir cette croissance. Et le problème que nous avons, c'est qu'avec le niveau d'endettement de nos différents pays, on ne peut pas accéder à n'importe quel fenêtre ou à n'importe quelle ressource ou à n'importe quelle condition. Et c'est ça que nous demandons, c'est pour ces secteurs clés, on puisse alléger les conditionnalités d'accession à ces fonds pour pouvoir investir dans ce secteur.
Les conférenciers ont réitéré l'appel à un troisième siège au conseil d'administration du FMI dans le but de renforcer la représentation de l'Afrique lors des assemblées annuelles. Le prochain caucus aura lieu en 2012 et ce sera encore à Kinshasa.
Voilà, merci Daniel pour toutes ces informations. Nous retrouvons notre invité, il s'appelle Dieudonné Kassembo, je vous l'ai dit. Il est président de la commission PME et commerce à la Fédération des entreprises du Congo. Il vit à Kinshasa, il a donc suivi les travaux du caucus africain. Vous avez suivi cet élément, est-ce que vous avez un commentaire? Lutter contre la crise alimentaire, mais aussi contre le déficit en énergie.
Oui, madame, c'est un sujet très intéressant. Et le choix de cet homme pour notre pays et qui coïncide aussi avec l'organisation de ce sommet ici dans notre pays n'était pas pris au hasard parce que vous comprenez que notre pays, là, avec cette étendue des terres qui ne sont pas exploitées, normalement devait être la réponse pratiquement à la préoccupation de toute l'Afrique même du monde. Mm-hmm. Je crois que vous suivez qu'au niveau de la Corne de l'Afrique, il y a une crise alimentaire énorme
qui frappe
de plein fouet tous ces pays. Pendant que dans notre pays, où nous avons l'avantage d'avoir un climat propice qui pouvait permettre que nous puissions pratiquement cultiver dans toutes les saisons et pouvoir inonder avec l'eau douce, pouvoir inonder les autres pays africains qui sont en manque, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que bon, c'est vrai, je crois que c'est un problème des politiques, hein, des politiques qui peuvent être mises en place, quand bien même qu'on voudra réunir les fonds. Il faudrait qu'il y ait un engagement politique aussi au niveau des autorités politiques, hein, parce que vous comprenez que ça ne doit pas être seulement qu'une affaire de l'État, mais qui doit concerner les privés et l'État sous forme d'un partenariat public-privé, et qui permettrait effectivement à ce moment-là de pouvoir produire en grande quantité et arriver à réaliser ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est qu'après qu'on pourra penser à pouvoir exporter pour les autres pays africains qui sont en manque.
Mais là, les pays qui se sont réunis dans ce caucus se tournent vers le FMI et la Banque mondiale pour pouvoir plaider pour un meilleur accès aux fonds. Est-ce que vous pensez que pour la RDC particulièrement, il faudrait vraiment tendre la main vers ces institutions pour pouvoir booster la
agriculture? Oui, madame. Bon, c'est bien que ça doit être comme ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour se lancer dans l'agriculture, ça demande quand même beaucoup de choses. Hein. Parce que vous devez avoir des laboratoires appropriés qui soient en mesure de pouvoir faire des bonnes études éventuellement pour des semences appropriées. Et nous avons besoin des banques de crédits agricoles dans notre pays qui n'existent plus. Parce qu'en fait, si l'on doit relancer l'agriculture, ce n'est pas avec des tracteurs qu'on peut résoudre tous ces problèmes. On a besoin d'avoir des études appropriées par rapport à chaque environnement. On a besoin d'avoir des semences et des engrais.
Et tout cela demande des fonds.
Des fonds énormes. Et les fonds ne suivent que des projets intéressants. C'est comme ça que je crois que dans les reportages que vous avez suivis, il y a des fonds qui sont disponibles, mais dont les pays africains ne sait pas
accéder.
Faut des projets. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un programme où l'on mettrait en présence les opérateurs privés avec notre ministère de l'Agriculture, de manière qu'on discute, qu'on voit comment est-ce qu'on peut accéder à ces projets.
Et tout de suite, le deuxième dossier de la semaine, Nicole, c'est l'édition 2011 de la Foire internationale de Kinshasa qui a ouvert ses portes samedi dernier.
Tout à fait, près de 132 opérateurs économiques, hormis les détenteurs de kiosques, participent à cette foire. Mais que gagne un exposant ou un détenteur de kiosques qui participe à la FIKIN? Élément de réponse avec Darko Tambikila.
Azomona ntuka toza mama esengo moko na makasi parce ane passé zaki bongo te mais ane oyo mouvement za makasi penza recette nanga te na édition ko ndiba te na vida ki de congélateur en tout cas na sala ki $600
si ki comme la France. Cette jeune dame a le sourire. Elle a dépensé $1000 pour avoir un espace, mais elle devrait rapidement couvrir ses dépenses. En un jour, elle vient d'imposer près de $600 américains, une somme qui représente près de 60% de l'argent qu'elle a investi pour avoir un kiosque. Mais la foire n'est pas qu'espace des kermesses ou des jeux pour enfants. C'est aussi un espace de change, des promotions de biens et services pour les opérateurs économiques, les entreprises publiques et privées, ainsi que les institutions de l'État. Marcel Maubinga du ministère de Mines explique pourquoi son ministère participe à cette manifestation.
La foire prévoit un thème qui incite le ministère de Mines à venir le développer. Mais depuis l'année passée, le ministère de Mines organise un colloque à la FIKIN et ces colloques ensemble les experts du ministère de Mines qui viennent échanger sur les grandes questions soulevées dans le secteur minier, qui viennent échanger sur des expériences dans le secteur minier et qui viennent aussi débattre des grandes questions soulevées par la population en ce qui concerne le secteur minier. C'est un cadre où le ministère de Mines crée une communication de masse.
Précisons tout de même que certains grands annonceurs manquent à l'appel, et notamment les cas avec Carcel et Vodacom, dont la présence est essentiellement commerciale. Cependant, la foire peut garder espoir de remettre des cendres 20 ans après sa destruction. Cet organe du conseil technique du gouvernement en matière des activités foraines a désormais le monopole pour organiser des activités foraines sur l'ensemble du territoire congolais. Et en tout cas, la déclaration du ministre de l'Industrie, Anissé Kouzunda, à l'ouverture de cette énième édition de la foire. Notons que le coût global de la réhabilitation de la FIKIN est évalué à près de $10 millions.
Merci Darko. Dieudonné Kassembo, nous vous retrouvons. Vous êtes aussi chef d'entreprise et je vous ai vu secouer la tête en écoutant cet élément. La foire, espace de kermesse ou de promotion commerciale?
Non madame, réellement ça me fait très mal au cœur quand je vois de la manière dont notre foire est utilisée. Mais non, que, bon, en fait, je ne suis pas quand même né hier, c'est bon, je connais ce qu'était notre foire à l'époque, normalement la force est l'occasion où on doit mettre en présence les acteurs économiques qui doivent faire la promotion de leurs produits et permettre à la jeunesse congolaise de connaître que peut produire le Congo. Aujourd'hui, là, c'est comme vous dites, c'est une occasion de kermesse où les gens peuvent juste vendre de boissons et tout le reste. Moi, je crois que la responsabilité incombe beaucoup plus au ministre des Commerces qui doit développer une politique attractive qui attire les opérateurs, les acteurs économiques locaux comme étrangers, de manière que ce soit réellement un point de rencontre où l'on peut effectivement échanger les différents produits, les affaires qu'on peut négocier au pays. Notre pays est grand, est tellement grand qu'on peut mettre en présence les acteurs de toutes les autres provinces qui se retrouvent ici. Parce que je prends seulement l'exemple de l'activité qu'avait organisée son excellence le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Académie des Beaux-Arts. Combien ça ne nous avait pas impressionné de voir qu'il y a beaucoup de choses que les différents instituts supérieurs congolaises peuvent montrer à la population congolaise. Mais quand je ne prends que cet exemple-là, et c'est pour dire qu'il y a aussi d'autres entreprises qui voudront faire la même chose. Mais pour autant.
Mais pourquoi les entreprises n'y vont pas avec cette entreprise?
Mais ça dépend de la politique. Je voudrais bien que ça soit comme ça. Je voudrais bien qu'on puisse développer un thème, qu'on puisse payer de l'attraction, qu'on puisse nous impliquer totalement, au lieu que ce soit que quelques heures seulement avant l'ouverture, qu'à ce moment-là, on commence à intéresser les opérateurs économiques qui ne voient même pas les bien fondés à ce moment-là de cette activité foraine.
Donc vous voulez dire qu'on ne vous a pas impliqué?
Il doit y avoir un accompagnement. C'est-à-dire que dès qu'on ferme une activité foraine, on commence déjà à préparer la présence avec un thème bien précis et une action d'accompagnement soutenue.
Bon, ce n'est pas trop tard de donner qu'à ces mots. Aujourd'hui, si on vous proposait, et pourquoi ne pas aller vers les responsables de la FIKIN pour carrément leur faire des propositions concrètes?
Non, au niveau de nos responsabilités dans notre fédération, nous sommes en train de nous préparer pour organiser un salon de l'artisanat et de la PME. Je crois que ça sera une occasion, nous allons impliquer tout le monde, nous voudrons à ce moment-là marquer notre image par rapport à une organisation, je crois, qui pourra servir de modèle pour la suite.
Donc vous voulez dire que la FIKIN ne vous intéresse pas, $1,000 d'investissement en une journée? On a suivi tout à l'heure une maman qui a récupéré $600 en une journée.
Mais si, on pourrait faire plus. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'acteurs économiques étrangers qui voudront venir montrer, exposer leurs produits ici chez nos pays.
Mais on ne leur donne pas
l'occasion. Donc il faudrait une très bonne politique d'accompagnement de toutes ces personnes, des contacts avec nos ambassades, et déjà même au niveau local, il y a certains bureaux des représentants. Nous, quand nous nous déplaçons à l'étranger, combien de fois on ne rencontre pas des gens qui veulent faire la promotion de leurs produits dans notre pays? Il suffirait seulement qu'il y ait une bonne politique pour se faire.
Voilà, comme annoncé dans les titres, le panorama économique d'aujourd'hui fait une évaluation de l'application du SMIG en RDC.
Oui, il est bon de savoir qu'un huissier à la fonction publique touche 5 000 francs congolais par mois. Combien devrait-il normalement toucher si l'on s'en tenait à l'application du SMIG en RDC? Selon plutôt cette enquête d'Ako Tomikina.
La loi sur les salaires minimums interprofessionnels garantis SMIG a été promulguée en mai 2008. Elle fixait alors les SMIG à 1680 francs congolais, soit $3 au cours de change de l'époque. Mais aujourd'hui, un huissier de la fonction publique touche 30 000 francs congolais, soit $1,5 par jour. En clair, ces fonctionnaires gagnent deux fois moins que ce qui était prévu en 2008. Pour la Confédération syndicale nationale, le frein dans l'application du SMIG vient du gouvernement et du patronat.
Certains employeurs sont carrément réfractaires, certains hésitent, certains protestent, chacun est dans son coin avec son attitude, d'abord dans sa position vis-à-vis de cette loi.
La Fédération des entreprises du Congo, de son côté, réfute ces accusations. Pour le chef du département juridique de la FEC, qui s'appuie sur le Code du travail, la rémunération est stipulée en monnaie du pays, c'est-à-dire en francs congolais. L'ordonnance présidentielle fixait les SMIG à 1680 francs par jour en 2008, une somme qui s'évaluait alors à $3. Mais depuis, le franc a baissé, alors que les SMIG n'a pas été réévalué. Résultat, une perte de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Pour les patronats congolais, la faiblesse se pose donc au niveau de la loi et de la commission de suivi de l'application de cette mesure. Le ministère de l'Emploi reconnaît de son côté les difficultés que prend cette commission. Angélique Ndjeni, présidente de la commission.
La commission de suivi de l'application des SMIC que je dirige n'est pas encore arrivée à avoir des résultats par rapport à cette question. Il y a très peu qui ont pu appliquer le troisième palier. J'ai dit que même la plus belle fille n'était donnée que cette loi. Le frein important, c'est qu'on mobilise. Il faut d'abord mobiliser pour disponibiliser.
Notons que dans le reste du pays, on note tout de même des avancées significatives. Au Katanga, les SMIC fixés aujourd'hui à 100 dollars américains par mois est strictement appliqué grâce à l'implication du gouverneur de cette province.
Voilà, désolé Kassembo, vous êtes un affilié. Dès la fin, ce sujet vous concerne de près, je suppose. Qu'est-ce qui bloque pour l'application du SMIC? D'abord, est-ce que vous appliquez le SMIC?
Oui, moi je crois que... Je me dis que mieux les collaborateurs sont payés. Je dois m'attendre à un résultat beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas, pour la bonne marche de mes affaires. Mais je voudrais ajouter une chose ici, c'est que il faut reconnaître que l'État congolais, c'est le plus gros employeur que nous puissions avoir dans ce pays. Quand vous prenez les fonctionnaires, les policiers et les militaires, je me rappelle encore à l'époque, quand on payait les fonctionnaires le 20, on sentait l'emballement au niveau du marché. Et c'est ce qui attirait un peu les privés à pouvoir investir. Parce qu'en fait, cet emballement, ça crée la demande. Et nous, les opérateurs économiques, nous répondons par ce fait à la demande de la population. Mais aujourd'hui, quand vous observez le comportement du marché, c'est tel que la demande est inexistante.
Les fins de mois, on les distingue.
Voilà, on les distingue plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, nous, ce que nous payons, c'est quoi? C'est la conséquence du résultat de ce que nous sommes en train de réaliser. Moi, je crois quand même que notre État doit faire un grand effort pour qu'on fasse attention, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un effet de retour. Mieux qu'on va payer le fonctionnaire, que ça va faire, il va avoir un effet d'entraînement.
Les
voilà.
Privés aiment bien jeter
en fait, nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires, mais pour autant qu'on doit discuter correctement, ça permettrait à booster notre économie. Je vous donne un exemple de la France. Quand il y avait ce blocage de la demande au niveau de la France, le pouvoir public s'est retrouvé en face de privé pour réfléchir de quelle manière on pouvait booster la demande. Mais si au niveau de notre pays, on doit nous considérer comme si nous étions des adversaires, je crois que ça n'arrangeait pas les choses. Il faudrait qu'effectivement, dans les cas de ces comités de suivi économique, que nous nous retrouvions en face pour réfléchir de quelle manière nous pouvons relancer notre économie.
Et selon vous, c'est le gouvernement qui, en premier,
doit faire un grand effort. Tu dois faire un grand effort. Vous avez suivi les reportages de tout à l'heure où les gens, les fonctionnaires sont payés, ils ont un salaire qui ne leur permet même pas de tenir le milieu du mois, 30-35 dollars, c'est pour faire quoi?
L'État, le premier, ne respecte pas
ça, les accords des Moody. Moi, je me dis aujourd'hui, si avec les impôts que nous payons, et ce que l'État peut réaliser comme produit, et puis ça peut permettre qu'effectivement que la demande puisse s'activer, et nous allons répondre à cette demande en produisant et en important, et ça nous permettra d'augmenter l'impôt que nous payons. Parce qu'en fait, il y a une chose que moi je voudrais vous donner comme exemple, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je prends la décision de pouvoir investir. Je vois quel est le capital que je dois mettre en place en tenant compte du personnel que je dois utiliser et quel est le salaire que je dois donner à mon personnel. Et le salaire que je donnerai, je tiens compte en disant, je calcule 3 ou 4 mois par exemple, où ces montants-là doivent sortir, n'est-ce pas, de mon capital. C'est ce que l'État doit penser à faire, par exemple, en disant, OK, aujourd'hui, je dois d'abord donner un salaire qui peut permettre effectivement à mon personnel de me donner les résultats que j'attends d'eux. Et tout en faisant des efforts pour se faire.
Mm-hmm.
N'est-ce pas? Mais c'est pas en disant, bon, voilà...
Mais on se pose aussi la question de savoir est-ce que ce SMIG est réel par rapport à la situation du pays. Est-ce qu'il colle? Est-ce que le pays est réellement capable de concrètement, avec les chiffres réels?
C'est possible. Moi, je pense que c'est possible, on peut le faire. On peut le faire par le fait qu'on essaye de communiquer suffisamment avec les personnes que vous devez utiliser pour autant que les objectifs sont bien définis et clairs. on peut arriver à réaliser cela. C'est pas pour impossible pour notre pays.
Oui, c'est pas impossible parce que déjà au Katanga, on y arrive. Hein?
Voilà.
Alors pourquoi pas à Kinshasa?
Non, mais déjà, à Kinshasa, au niveau des entreprises, moi je prends l'exemple de nos membres. Déjà, ce que nous nous payons, c'est au-delà même de ce qui est un minimum en dessous duquel on ne peut pas aller.
Hein?
Non, non, moi je me dis, si vous circulez aujourd'hui ici, je prends les cas de ma société, de mon entreprise, hein, mes employés ne sont pas en dessous de 100 dollars. Je ne sais pas comment voir ça.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre info de la semaine, 29 900 tonnes de cathode de cuivre et 2800 tonnes de cobalt métal, c'est la production de la société minière 5 et Sangourmé Mining au second trimestre de l'année en cours, rendu public mercredi dernier.
Oui, TFM annonce par ailleurs avoir payé au compte du Trésor public et à d'autres services administratifs publics de la RDC environ 21 millions de dollars américains à titre d'impôts et de paiements connexes, ce qui amène environ 391 millions de dollars américains de paiement depuis le démarrage du projet en 2006. Pour rappel, l'investissement cumulé de Tenke Fungurume Mining dans le projet d'exploitation minière au Katanga dépasse les 2 milliards de dollars américains.
Et à Bakwa-Chimuna, une cité minière de 12 km au sud de Mbujimayi, la police a mis la main le week-end dernier sur un propriétaire de puits de diamants creusés dans sa parcelle résidentielle.
La société civile locale se félicite de cette implication des autorités locales, mais affirme que les gens continuent à creuser dans leur parcelle. On a compté dans cette cité jusqu'à près de 400 puits de diamants creusés dans les parcelles résidentielles.
Et voilà, de Denis Kertembo, vous avez suivi ces quelques informations un peu en rafale. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport, par exemple, aux chiffres réalisés par TFM?
Non, mais je salue le sens du patriotisme de cette entreprise qui contribue énormément aux besoins de fonctionnement de notre économie. Mais ce que je voudrais demander à l'État congolais, c'est plus d'accompagnement. Parce que moi, je me dis, c'est vrai, le chiffre suit, mais il faudrait aussi que cet accompagnement permettra à cette entreprise de pouvoir effectuer énormément de marge par le fait qu'on peut élaguer d'autres taxes qui constitueraient un goulot d'étranglement.
Vous estimez que les opérateurs économiques sont étouffés actuellement par les taxes.
Oui, par les taxes et puis les tracasseries aussi administratives. Parce que vous comprenez que par moment, le texte que nous appliquons dans notre pays, il faut requérir une certaine vulgarisation suffisante et qui mettrait beaucoup plus à l'aise aux acteurs économiques qui font confiance à notre pays, ils viennent investir. Moi, je me dis, s'il y a un accompagnement, ces entreprises congolaises pourraient encore mieux faire que ce qu'ils font jusque-là.
Et cet exemple de transparence de la publication des chiffres?
Dans les cas de l'ITI, je crois que c'est à suivre et qu'on puisse étendre ça dans toutes les autres activités, même dans les secteurs du commerce.
Panorama économique, reportage.
Et nous enchaînons directement sur ce reportage. Vous le savez peut-être, dans plusieurs grandes villes de la RDC, les coupures de 1 dollar ne sont pas acceptées dans les transactions.
Il s'est même du reste qu'on voit le pas aux autres villes depuis environ 2 semaines. Conséquence, la réduction du taux de change sur ce billet, 1 dollar américain, est négocié à ce jour à 300 ou 500 francs congolais, alors que le taux officiel est à 900 francs congolais. Certaines personnes avisées attribuent cette situation au caprice de certains consommateurs importateurs véreux en quête de bénéfices.
Ce refus de coupure d'un dollar américain a commencé d'abord par les billets d'un dollar émis avant 2000. Aujourd'hui, ce sont toutes les coupures d'un dollar qui ont perdu leur pouvoir d'achat dans la ville, témoignage d'un commerçant.
Et bandage nano du bosson à bandit sur la magasin à Baïndi, Bazolin à Bazolin de Sam. Je donne à un dollar de soupe de Brunel, un roi à son nom à l'obito boya de l'été. On a posé à la consulat à la mission à Cambo, ma vie à l'île Bongo et Bapaya, Bongo Soga Boya, Soga Malamon.
Propos rejetés par les candidats de la ville, ils affirment par ailleurs accepter les coupures d'un dollar américain, mais à un taux réduit.
Je vous ai rejeté tout ça aux bonabito, mais aux gens en tomo et en réduction au Yamouké. Pourquoi ils ont 900 francs, aux gens repartent à 500, des fausses 600, 700. Je vous ai dit que je suis 500.
Comme l'échangeur de monnaie, les commerçants indiens pointent d'un doigt accusateur certaines agences de transfert d'argent d'être à la base de cette situation, notamment la Soficom. Écoutons ces commerçants indiens.
Au bas de ce saga, le petit n'a pas Soficom. Soficom a déclaré qu'il y a aussi un dollar. Tous les gens qui ont été en train de se faire en train de se faire en salade.
Du côté de Soficom, ce sont plutôt les commerçants qui ont déclenché ce mouvement de refus. Toutefois, elle affirme depuis quelques temps limiter la réception des billets de 1 dollar américain dans les transferts d'argent. Ceci est justifié notamment par certaines contraintes dans le transfert de ces coupures au niveau de certaines banques commerciales, notamment la BCBC. Jérôme Rachidi, caissier de Soficom.
Soficom encaisse pour donner maintenant aux clients. Les clients ne veulent pas prendre. Quand vous arrivez à la banque, par exemple, le montant de 5 000 dollars, vous avez 4 000 dollars d'autres coupures, vous payez le pourcentage très normal, par exemple, 3%. Alors, les 1 000 $-là de 1, on vous exige de payer 5%. C'est ça la difficulté. C'est ça les manques à gagner pour nous.
La Banque commerciale du Congo affirme encaisser une masse importante de coupures d'un dollar américain de la part des clients qui veulent s'en débarrasser. Elle dit retenir 5% de décote pour toutes les coupures non consommables dans la ville, notamment les dollars de série avant 2000 et aujourd'hui 1 dollar américain. Ceci, c'est pour faire face aux frais de transfert de ces billets dans des banques de pays qui les consomment encore. Kisangani, Godlivo Mondo, Okapi Economy. Merci Godlivo Mondo depuis Kisangani et nous retrouvons dans ce studio Dieudonné Kassembo Nyembo, il est membre de la FEC. Il est en charge de la commission PME et commerce et il a suivi cet élément. Que pensez-vous de ce phénomène, le refus des coupures d'un dollar alors que notre économie est fortement dollarisée, comme on le dit?
Oui, en fait, pour les commerçants, l'utilisation de devises, normalement, c'est pour leur permettre de renouveler leur stock, c'est ça, de marchandises. Et aujourd'hui, pour... en fait, les transactions, par exemple, des importations, c'est fait non pas en liquide, en fiduciaire, c'est en cryptural. Mais la manipulation, n'est-ce pas, de billets de 1 dollar,
oui,
encombre les opérateurs.
Comment
quant à son stockage, d'abord, réaliser, par exemple, quelqu'un qui doit, épargner 100 dollars avec le billet de 1 dollar.
Mais
il doit le mettre dans un gros sac pendant que les 100 dollars peuvent être mis facilement dans une poche, par exemple. Alors là, nous parlons des 100 000 ou des 50 000,
mais
voyez les volumes que ça représente. Et puis, en plus de ça, ce que vous avez suivi tout à l'heure, par exemple, au niveau du transfert, même pour l'envoyer à l'étranger, ça représente un poids. Essayez de transférer 100 000 dollars en billets de 100 dollars et 100 000 dollars en billets de 1000 dollars. Le poids est différent à ce moment-là. Donc, c'est dire que, et ça expose la personne qui manipule les
parts. Mais c'est pas une raison pour les sous-évaluer, ce sont des coupures qui ont été émises qui ont...
Oui, mais, non, mais c'est bon. Mais réaliser les travaux que ça donne à l'employé qui doit manipuler 10 000 dollars en billets de 1000 dollars. Donner à une caissière de compter 10 000 dollars à 1 dollar et 10 000 dollars à 1 dollar. Non, mais c'est dire qu'il y a le temps. Il y a le temps, la manipulation, les risques et tout ça, et les poids, ça vous expose.
Oui, mais il y a aussi les banques. Pourquoi ne pas aller restituer ces coupures de 1 dollar au niveau de la banque que de les refuser?
Non, il faut les recycler. Il faut les recycler. Pour les recycler, vous les retournez à l'étranger. Les retournez à l'étranger, quoi, prenez 100 000 dollars en billets de 100 de mauvaise qualité et prenez 100 000 dollars en billets d'un dollar, n'est-ce pas, que vous devez retourner, il y a le poids, il y a le volume, donc ça aura un coût supplémentaire par rapport au billet de 100 dollars.
Vous faites façon de décourager les
non, mais je déplore quand même, non, je déplore quand même la position de dire qu'on rejette l'utilisation de ces billets. Mais seulement on doit les prendre avec des codes comme les autres font, sans exagération.
Merci de donner Kassembo. Panorama économique, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'être venus, d'avoir commencé avec nous cette actualité.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Merci Nicole Ndaka, de bien façon de être fidèle au rendez-vous de Panorama économique.
C'était un plaisir, Agathe.
Retrouvez toute l'actualité économique au quotidien sur Radio Capi avec toute l'équipe d'Éco d'économie du lundi au vendredi à 18h15 de Kinshasa. Un autre panorama avec un autre invité, ce sera samedi prochain à partir de 12h30 de Kinshasa. Mais d'ici là, chers auditeurs, passez un bon week-end en compagnie des programmes de Radio Okapi.